Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Au Mali, le groupe chargé de nommer le président qui dirigera le pays au cours des prochains mois après le putsch du 18 août doit se réunir ce lundi, a annoncé dimanche un responsable d'une des organisations associées aux concertations. Ce collège institué par la junte militaire au pouvoir se réunira à un moment où la CEDEAO fait pression pour que les militaires désignent rapidement le président et le premier ministre de la transition, insistant pour que ce soit des civils. Son médiateur, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, est attendu en début de semaine au Mali. Concernant la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié a appelé dimanche à la désobéissance civile. Nous y reviendrons dans un instant. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo s'est félicité des avancées enregistrées par son pays dans la lutte contre le coronavirus et il a annoncé la reprise de la saison de football. Mais, a-t-il ajouté lors d'une allocution télévisée dimanche soir, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester disciplinés et respecter les mesures d'hygiène, le port du masque et la distanciation sociale qui font désormais partie de notre quotidien. Et en Angola, au moins 3000 chrétiens portant le masque ont assisté dimanche à la messe à Luanda pour la première fois en 6 mois après l'assouplissement des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Les fidèles avaient aussi respecté une distanciation physique d'un mètre les uns par rapport aux autres au cours de cette messe célébrée en plein air et qui n'a duré que 90 minutes au lieu des 5 heures en temps normal. L'Angola déplore officiellement quelque 3 900 cas, dont 147 morts. Les États-Unis frôlent la barre des 200 000 morts du coronavirus avec 199 474 décès à ce jour selon l'université Johns Hopkins. En Inde, deuxième pays le plus affecté par la pandémie, le Taj Mahal va rouvrir après 6 mois de fermeture en dépit d'une flambée de nouvelles contaminations, le gouvernement desserrant graduellement l'étau pour donner de l'air à l'économie. Le gouvernement du Québec, confronté à une résurgence du nombre de cas, a annoncé dimanche des restrictions liées au rassemblement, notamment à Montréal. La pandémie a fait au moins 957 948 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan de l'AFP dimanche. Et ce lundi début pour près d'un million d'habitants de la région de Madrid de 2 semaines de strictes limitations à leur liberté de mouvement destinées à freiner la deuxième vague de l'épidémie. Il ne s'agit pas pour autant d'un retour aux sévères mesures imposées au printemps, assurent les autorités. La situation paraît notamment préoccupante en Belgique où le nombre de cas positifs a franchi les 100 000 dimanche, en France où plus de 10 000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures ou au Liban où le nombre de contaminations a bondi depuis l'explosion le 4 août au port de Beyrouth. En Israël, pays reconfiné depuis vendredi, plusieurs milliers de manifestants ont réclamé dimanche soir à Jérusalem le départ du premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption et accusé de mauvaise gestion de la crise sanitaire. Selon un responsable de la douane, un suspect a été arrêté après l'envoi d'une enveloppe interceptée à temps qui contenait un poison de la ricine et avait été adressée au président américain Donald Trump. Il s'agit, dit-on, d'une femme qui portait une arme à feu quand elle a été interpellée à un pont à Buffalo, celui du Peace Bridge qui relie le Canada à l'État de New York. Selon le New York Times, la lettre en question aurait été postée depuis le Canada. La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Henri Konan Bédié a appelé dimanche, au nom de l'opposition, à la désobéissance civile face à ce qu'il a appelé la forfaiture de la candidature controversée en troisième mandat du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre. Claire Morin-Gibourg.
C'est à la sortie d'une réunion des principaux partis de l'opposition à Abidjan qu'Henri Konan Bédié a pris la parole. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile, a-t-il déclaré. Nous sommes ici pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la Constitution, a-t-il ajouté, sans donner davantage de détails. L'opposition n'a pas appelé à un boycott du scrutin présidentiel. À un peu plus d'un mois de la présidentielle, la situation politique est tendue en Côte d'Ivoire. En août, une quinzaine de personnes sont mortes dans des violences survenues après l'annonce de la candidature du président Ouattara à un troisième mandat et des échauffourées ont eu lieu mardi dernier dans plusieurs localités après l'annonce du Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus pour le scrutin. La crainte d'une explosion de violence est forte, 10 ans après la crise post-électorale, née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts.
En Mauritanie, les habitants de plusieurs quartiers de Nouakchott, la capitale, se sont retrouvés les pieds dans l'eau dimanche, après des pluies diluviennes et une saison particulièrement pluvieuse. Michel Joseph.
Rouler en voiture était impossible dans certains quartiers dont le niveau se trouve à 1 mètre sous celui de la mer. Des pompes ont été activées dans la nuit de samedi à dimanche pour vider les rues, mais aussi les écoles, car les examens du baccalauréat sont en cours actuellement. Des habitants comme Abdallah Traoré se désolent de la situation.
Ça, c'est l'eau qui est venue dans notre porte jusqu'à se rentrer dans notre semble tout. Il faut que l'État va trouver une solution pour les lots. Cette année, il y a beaucoup d'eau qui est prise ici.
La pluviométrie a été supérieure à la moyenne pour une saison des pluies, selon les autorités mauritaniennes. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani s'est rendu il y a 10 jours à Bassitnou et Adel Begrou, dans l'extrême sud-est du pays, touché par les inondations. Une cellule d'intervention d'urgence a été mise en place. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont également été sévèrement touchés par les inondations qui ont fait des dizaines de morts au Niger, mais aussi frappé le Sénégal et le Burkina Faso.
Les États-Unis vont sanctionner ce lundi une vingtaine de personnes et d'entités impliquées dans les programmes nucléaires de l'Iran, a déclaré un haut responsable américain. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
S'exprimant sous couvert d'anonymat, ce haut responsable a déclaré que l'Iran pourrait détenir suffisamment de matière fissible pour une arme nucléaire d'ici la fin de l'année et que Téhéran avait repris sa coopération en matière de missiles à longue portée avec la Corée du Nord, pays doté de l'arme nucléaire. Ces nouvelles sanctions surviennent une semaine après les accords négociés par les États-Unis pour une normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis d'une part, Israël et Bahreïn de l'autre. Ces accords pourraient aboutir à la formation d'une coalition plus large contre l'Iran. Les mesures américaines constituent un avertissement à l'égard des Européens, de la Chine et de la Russie, dont les entreprises risquent d'être sanctionnées si elles venaient à violer les nouvelles sanctions contre l'Iran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a, par ailleurs, accusé hier les Européens de ne rien faire pour empêcher le commerce d'armes avec l'Iran en refusant de soutenir le rétablissement par Washington des sanctions. La Maison-Blanche n'a pas fait de commentaire.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Cameroun, la société privée Camvert a lancé la plantation de sa palmeraie industrielle à Campo, dans le sud, sur 1500 hectares. Une extension de 5000 hectares est prévue en 2021 selon Investir au Cameroun. Ce projet devrait permettre de produire à terme 180 000 tonnes d'huile de palme par an et 18 000 tonnes d'huile de palmiste. 8 000 emplois directs devraient être créés, le Cameroun est en déficit de 130 000 tonnes d'huile de palme chaque année. La Banque mondiale vient d'accorder un financement de 150 millions de dollars au Rwanda pour améliorer l'accès à l'électricité des populations, des institutions et des entreprises. Les fonds serviront également à favoriser l'accès à 2,15 millions de personnes à des moyens de cuisson plus propres et plus durables. Ce projet ambitionne de réduire la dépendance aux combustibles non durables de cuisson de 50%. Bataille de succession à la tête du GAO, le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Le mandat de l'actuel directeur général Walter Pérez arrive à expiration. Pour assurer le poste de DG, le candidat devra avoir exercé ou été formé dans les quatre États parties, soit le Togo, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Le GAO vise à renforcer l'interconnexion du gaz en Afrique de l'Ouest.
Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la reprise ce week-end du championnat national de première division du Burkina Faso.
Oui, et de 16 équipes la saison écoulée, elles seront 18 cette année à s'affronter en aller et retour durant près de 8 mois au cours de 34 journées. Précision avec notre correspondant Kader Traoré à Ouagadougou.
Aussitôt démarré, le championnat national de football de première division du Burkina Faso connaît des difficultés. 7 clubs sur 18 et non des moindres, à savoir l'ASFA Yenenga, l'Étoile Filante de Ouagadougou, l'ASFB, Salitas FC, Raimo FC, Majestic Sporting Club, COSAF, ont décidé de boycotter cette compétition au motif que le règlement ne leur est pas favorable. Adama Ouedraogo, président de Majestic SC.
Nous avons refusé de jouer le championnat national pour 4 raisons. Premièrement, il faut savoir que la Fédération burkinabé de football, à travers son règlement du championnat D1 cette année, nous fait obligation de porter un maillot avec à la poitrine le logo de son sponsor, ce que nous pensons n'est pas être forcément juste. Deuxièmement, il y a que la Fédération fait obligation également au club d'accepter qu'un certain montant soit coupé, environ 1 500 000 pour souscrire à une police d'assurance. Quatrièmement, et le fait que Lazare Bansé nous ait promis la somme de 30 millions de francs CFA.
Du côté de la Fédération burkinabé de football, l'on est convaincu que l'instigateur de cette fronde est Amadou Traoré, adversaire du président nouvellement élu à la tête de la fêtière du sport au Faso. On écoute Lazare Bansé, président de la FBF.
Je pense que c'est une mauvaise querelle. Si vous voulez, c'est des mauvais perdants. Agglutinés autour de M. Amadou Traoré. Amadou Traoré a perdu les élections. Il faut qu'il comprenne que les élections sont terminées et que nous devons nous mettre ensemble pour développer le football. Maintenant, organiser des personnes, des clubs pour boycotter le championnat, je pense que ce n'est pas digne de quelqu'un qui a été candidat et qui, dans son programme, a espéré développer le football de Burkina Faso. Je pense que là-dessus, honnêtement, là, il se trompe de combat. Nous avons décidé d'appliquer le règlement dans toute sa rigueur.
Le règlement prévoit d'ailleurs qu'un club qui manque 2 matchs par suite de forfait est relégué en 2e division. Tout compte fait, 3 matchs ont pu se jouer lors de cette première journée. Les Léopards de Saint-Camille ont battu Vitesse FC par 3-2. La SEC de Kourougou et le Rai Club du Kadjogo ont fait jeu égal 1-1. C'est sur le même score que l'AS Sonabel et le RC Bay se sont quittés. Kader Traoré, Ouagadougou pour VO Afrique.
Reprise également de la Bundesliga en Allemagne et le Bayern de Munich attaque très fort.
Dans une Allianz Arena vide, les Bavarois ont simplement déroulé face à une équipe de Schalke 04 dépassée dans le jeu. Score 8-0 avec un triplé de Serge Gnabry et le premier but de Leroy Sané. Le Borussia Dortmund a également fait forte impression en dominant facilement le Borussia Mönchengladbach 3-0 dans le match choc de cette première journée.
En Angleterre, on jouait la deuxième journée de la Premier League et Liverpool gagne le choc à Chelsea.
Champion d'Angleterre en titre, le Red ont réussi un gros coup en dominant l'affiche de cette deuxième journée 2-0 contre les Blues de Chelsea. Avec 6 points, l'équipe de Jurgen Klopp partage la première place avec Arsenal qui a réussi à confirmer son succès de la première journée en disposant dans la difficulté de West Ham 2-1. En revanche, pour son match de reprise, Manchester United s'est incliné contre Crystal Palace. Score 3-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, l'opposition a remporté le premier scrutin depuis le début de la pandémie de Covid-19 ce week-end. Le candidat du parti APC remporte le siège de gouverneur de l'État d'Edo dans le sud pétrolier. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Le responsable de la Commission électorale nationale indépendante pour l'État d'Edo annonçant les résultats des élections partielles dans l'État. Il y avait plus d'un demi-million d'électeurs inscrits, appelés aux urnes pour choisir un nouveau gouverneur ou reconduire le sortant Godwin Obaseki pour un second mandat de 4 ans à la tête de cet État du sud pétrolifère du Nigeria. C'est donc le candidat de l'opposition, Godwin Obaseki, qui est réélu pour un second mandat de 4 ans.
The great people of Edo State have spoken, and they have spoken loud.
Le grand peuple de l'État d'Edo s'est exprimé de façon claire et nette, ce qui me satisfait de plus en saluant les supporters qui ont démontré du courage face à l'intimidation, la menace et la brutalité. La volonté collective du peuple d'Edo nous a permis de triompher du système de parrainage.
L'État d'Edo était jusqu'ici le seul État détenu par l'APC du président Muhammadu Buhari dans le sud du Nigeria. L'enjeu de cette élection partielle était donc crucial, mais les querelles entre élites du parti au pouvoir seraient à la base de la défaite de l'APC à cette élection dans l'État d'Edo, qui vient ainsi de basculer entre les mains du principal parti d'opposition, le PDP. Il y avait des observateurs des organisations de la société civile déployés sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Hidayat Hassan, du Centre pour la démocratie et du développement, l'un des organes ayant observé les élections.
Cette élection a été paisible par rapport à ce qu'on s'attendait. Mais il y a beaucoup de défis qui demandent des réformes dans le cadre légal du processus électoral et pour le changement d'attitude pour le Nigeria.
Le groupe des Nigériens préoccupés qui a aussi observé cette élection dénonce des irrégularités durant les opérations de vote. Dedi Adeyin Diouf est son président.
Les élections n'ont pas été libres et transparentes, même si c'est le PDP qui a gagné. Parce qu'il y a eu un achat massif de votes dans de nombreux bureaux de vote. Des gens ont tenté de perturber le vote dans certains bureaux, même si là aussi les populations ont résisté. Et malheureusement, il y a eu encore des bureaux de vote qui ont été emportés.
Le gouverneur sortant, réélu Godwin Obaseki, auparavant affilié au parti présidentiel, a quitté le parti au pouvoir du président Buhari pour le PDP à cause des dissensions au sein de l'APC. La victoire de l'opposition est un processus nouveau qui commence au Nigeria, selon Djibril Ibrahim, professeur de sciences politiques.
Je viens de voir les commandations du président Buhari où il a félicité le parti d'opposition d'avoir gagné ces élections-là. Donc je pense que c'est un processus nouveau qui arrive au Nigeria où les gens au pouvoir commencent à accepter une situation où ils ont perdu une élection.
Dominé par les candidats de l'APC, le parti présidentiel et du PDP, le Parti démocratique populaire, principale formation d'opposition du pays, le vote s'est déroulé sous une forte présence des forces de sécurité déployées en grand nombre. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Tchad, colère et indignation des citoyens et des autorités judiciaires suite à l'incident qui s'est produit au sein du palais de justice de Niamena la semaine dernière. Des parents armés d'un colonel condamné à 5 ans de prison pour avoir assassiné un jeune mécanicien l'ont extirpé de force de la salle d'audience avant que le prévenu ne soit appréhendé avec ses complices quelques heures plus tard. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmadjingar.
La scène s'est produite au lendemain de l'interpellation du ministre de la Justice par l'Assemblée nationale sur le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Djimé Arabi a balayé d'un revers de la main la question d'un député sur la prise en otage de la justice par certains individus qui se croient au-dessus de la loi et qui pensent que la prison est faite pour les pauvres. De pareils propos, selon le ministre, n'engagent que son auteur. Cette situation vient confirmer qu'il y a deux catégories de Tchadiens, estime le coordonnateur national du mouvement citoyen l'OTAN, Kemba Dida Alain.
Cette scène a prouvé effectivement qu'il y a des Tchadiens et des Tchadiens de second rang, dont le ministre de la Justice doit démissionner et le procureur aussi. Parce que comment on peut expliquer qu'au palais de la justice, que des individus puissent avoir accès armés et aller extirper un condamné au vu et au su de tout le monde, il faudrait que les responsabilités soient situées.
Le procureur de la République, Youssouf Tom, met en garde des individus qui pensent être au-dessus de la loi.
Aux autres Tchadiens qui pensent être dans le monde des illusions, à partir d'aujourd'hui, qu'ils cessent de rêver. Nous sommes dans un état de droit. Si vous avez des réclamations, utilisez les voies réservées à cet effet, qui est de penser revenir vos parents, vos amis. Cela appartient au passé.
Pour beaucoup de Tchadiens, ce qui s'est passé éternit non seulement l'image de la justice tchadienne, mais aussi démontre que certaines valeurs rétrogrades sont toujours vivaces au sein de la société tchadienne.
Ça étale à la face du monde notre réputation d'un peuple belliqueux réglant tous les problèmes par la violence.
Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice, parle des défis à relever pour réconcilier les justiciables à la justice.
Première chose, il faudrait qu'il y ait une grande réforme de nos textes. Le Tchad n'a pas encore un code civil national reflétant les réalités sociétales. On applique encore le code civil de 1958. Est-ce que la justice reste une institution pour la préservation de la paix sociale, pour la préservation des droits et libertés des citoyens? Il y a également la question des chefs de race et chefs d'ethnie qui sont des intermédiaires de toute la procédure judiciaire, qu'elle soit pénale ou civil, par ce qui s'est passé reflète la mauvaise gouvernance. Ça, maintenant, c'est une question de rapprochement politique et d'analyse, mais je crois que le problème est assez crucial.
Les magistrats, quant à eux, qualifient cet acte de terroriste et déclenchent une grève à partir de ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Djonga Arafi est le secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad.
Le fait que les magistrats aient été aussi outragés constitue pour nous des défis qui sont le glas même de la déliquescence de l'État. C'est pourquoi nous avons demandé que les services des éléments de la sécurité soient donc renforcés en termes de personnel, de munitions et d'armes. Nous avons exigé que les auteurs de cet enlèvement-là soient poursuivis, jugés conformément aux lois donc de la République.
Les magistrats sollicitent par la même occasion l'intervention personnelle du président du Conseil supérieur de la magistrature afin d'apporter des solutions appropriées aux maux qui minent le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a lancé ce qu'il a appelé l'opération Zéro Chégué à Lubumbashi. Elle consiste à amener quelques 2000 enfants de la rue âgés d'au moins 8 ans dans des centres d'encadrement où ils bénéficieront d'une éducation et d'un bon entretien, tant matériel que spirituel, pour leur assurer un avenir meilleur et une réinsertion réussie dans la société. De Lubumbashi, reportage de Narval Mabila au centre d'encadrement de Lukuni.
Des centaines d'enfants en rupture familiale, appelés communément Chégué en langue lingala, sont sensibilisés par les scouts et ramenés au centre Lukuni pour un encadrement. Le gouverneur de la province, Jacques Yaboula, donne les grandes lignes de l'opération Zéro Chégué.
Nous sommes ensemble dans cette vaste campagne d'encadrement des enfants de la rue. Je voudrais qu'on la réussisse. L'opération elle-même, nous l'intitulons Zéro Chégué dans la ville. Pour toujours, pour voir tous les enfants de la rue, pas à Lubumbashi, au centre-ville, mais dans un centre comme celui-ci, où ils auront droit à l'éducation, ils auront droit à l'enseignement, ils auront droit à un bon entretien comme nous tous. Et je voudrais voudrais remercier aussi les curés qui a célébré la messe ici le dimanche. Merci beaucoup. C'est très important. Pour ces enfants, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Et il faut l'état d'esprit qui vient de l'encadrement, bien sûr, des scouts, mais plus de la prière.
Plus de 500 enfants ont accepté de vivre au centre d'encadrement de Lukuni, qui est situé à 25 km de Lubumbashi. Michel Kassongo, superviseur adjoint du centre Lukuni.
C'est depuis 2009 que ce centre a commencé. Nous avons plusieurs enfants régulièrement, c'est-à-dire des enfants qui sont vraiment en difficulté et qui sont des enfants de la rue. Et sa mission, c'est rééduquer tous ces enfants qui sont dans la rue pourvu que nous puissions les réinsérer dans la société demain. Il y a de ces enfants-là qui sont traités de sorciers. Et quand on les récupère, ces enfants, et quand vous le mettez ensemble, c'est un grand travail. Un travail vraiment psychologique qu'il faut vraiment se battre. Nous récupérons les enfants, mais malheureusement, quand nous récupérons les enfants comme ça, il y a ces enfants qui sont pédophiles.
Le Louchois s'est dit satisfait de cette opération.
Cette histoire menait vraiment la population mal à l'aise de Lubumbashi. Partout là où nous passons, il y a plein d'échecs. Et je me suis étonné, c'est il y a 3 jours quand j'ai passé au niveau de l'Express. J'ai vu le nombre diminuer à cet endroit. Et bravo à l'autorité provinciale Jacques Yaboula Katoué, au scout, en tout cas, je les encourage.
L'espoir est désormais permis pour ces enfants qui ont pu être récupérés et sont encadrés. Lubumbashi, Narval Mabila, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 102.8 FM.
Au Burkina Faso, premier festival d'envergure après le confinement dû à la crise du coronavirus. Le festival Afrobeat s'est tenu ce week-end dans un quartier populaire de Ouagadougou, la capitale. Afrobeat, un festival engagé qui s'est inspiré du style musical du Nigérian Fela Kuti, essaie de prôner des valeurs de paix, de justice, d'unité et d'intégration du continent africain. Des musiciens de renom ont communié avec le public qui n'attendait que ça. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Plusieurs milliers de spectateurs. Nous sommes au festival Afrobeat à Tampoui, quartier populaire de Ouagadougou. Cela fait 8 ans que ce festival se tient ici. Il devait se tenir en avril, puis plus tard en mai. C'est finalement en septembre qu'il a lieu à cause de la crise du coronavirus. Des festivaliers contents de vivre enfin ces moments. Amidou Diallo, festivalier.
Vraiment avec cette crise de coronavirus, nous sommes très bien amusés puisque à l'entrée on a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient spécialement destinés à donner des gels hydroalcooliques pour le lavage des mains, tout quoi. Donc les gens en avaient marre de rester ce soir à la maison sans rien faire, sans spectacle, sans vie. Le showbiz était mort, il n'y avait absolument rien à faire.
Mamadou Sanou, aussi festivalier.
Vraiment, ça nous a beaucoup manqué. C'est pas pareil. Écouter la musique à la maison et vivre le moment comme ça, surtout du live, c'est carrément différent.
Afrobeat, c'est aussi des messages engagés. Plusieurs musiciens y ont véhiculé des messages pour une Afrique qui bouge.
Tous nos problèmes, tous nos morts, tout le tour de la question d'élection. Troisième mandat. Cinquième mandat, pouvoir la vie, etc.
Freeman Tapili, musicien.
Il faut maintenant qu'on mette le garrot pour éviter qu'il y ait encore des morts inutiles. La jeunesse a besoin du boulot.
La star du rap africain.
Nous encourageons ce genre d'événements. Donc quand on nous invite à ça, les spectacles sont gratuits et puis voilà, on donne du plaisir aux gens et on contribue comme ça au développement de notre société autour de nous. J'espère que le message est passé. À un moment où aujourd'hui, où en Afrique de l'Ouest, on est à un tournant assez décisif, je dirais même le monde est à un tournant assez décisif, donc les artistes doivent jouer leur rôle, donc c'est ce qu'on a essayé de faire.
Jean-Marie Nabier, le promoteur du Afrobeat.
Et vous savez, Afrobeat, en tant que genre musical, a été créé par l'immense Fela Kuti, qui a été un freedom fighter. Pour nous, c'est très significatif. Fela, c'est aussi un combat pour la démocratie, l'enracinement de la démocratie, les libertés, les questions d'égalité.
Et donc pour nous, c'est très important de s'inspirer donc d'un tel genre musical. Nous souhaitons la justice, l'égalité entre les Burkinabés, entre les Africains. Nous souhaitons l'intégration.
En 5 jours, le festival a réuni plusieurs dizaines de milliers de festivaliers selon les organisateurs. Afrobeat essaie aussi de mettre l'art au service du développement de la cité. Pour cette 8e édition, le festival a aménagé une rue au profit des riverains du quartier Tampuy. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.